Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser continue sa semaine consacrée à la victoire à la Pyrrhus du droit dans l'après-89 et va se pencher sur le cas de l'Italie choisie comme un laboratoire de toutes ces transformations. Italie que nous allons étudier en compagnie de Giuliano da Empoli. En 1989 apparaissait un phénomène nouveau, la mise en accusation d'hommes politiques pour des affaires de corruption. Le phénomène est nouveau car les petits juges, comme on les appelait alors, n'étaient plus des juges rouges, mais plutôt des juges apolitiques, du moins dans un premier temps, parce que beaucoup ont été tentés ensuite par la politique. Le phénomène est nouveau car ce ne sont pas seulement les politiques qui étaient visés, mais également les médecins, les entrepreneurs, les fonctionnaires pendant l'occupation, on pense à l'affaire Papon, des prêtres, pour des affaires de pédophilie. Bref, c'était les élites dans leur ensemble qui étaient visées. Il fallait solder les comptes, il fallait mettre un terme à des mauvaises habitudes dans un moment général de judiciarisation. Mais ce n'était là que le début d'une histoire dont le deuxième acte est en train de se jouer aujourd'hui, notamment en Italie. L'Italie est partie des affaires qu'on a appelées manipulité, les mains propres, et elle termine dans le mouvement 5 étoiles. Y aurait-il un lien entre les deux ? Bonsoir Giuliano da Empoli.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, revenons en 89, revenons en Italie. Vous dites dans votre livre, qui vient d'être publié chez Jean-Claude Lattès, intitulé « Les ingénieurs du chaos », en fait, qui est la mise à jour d'un livre qui avait été publié en italien, qui s'appelait « La rabbia e l'algoritmo ».
Tout à fait.
Qui était plus expressif. Comment vous traduiriez ça en français?
C'est très simple, « La rage et l'algorithme ».
La rage et l'algorithme. Alors, on va venir à la rage et à l'algorithme, mais avant, repartons d'un phénomène très populaire, dont certains se souviendront, qui était l'opération main propre, qui était fait par des petits juges qui n'étaient pas des juges rouges, pas tous des juges rouges, Giuliano da Empoli.
Non, ce n'était pas une affaire idéologique, du moins au sens classique. Après, à mon avis, ça a été un peu l'embryon de la nouvelle idéologie, mais oui. on va y venir pendant notre conversation. Il faut bien comprendre, en termes de contexte, que l'Italie, qui est en effet un laboratoire politique toujours très sensible, a vécu de façon très particulière les années de la guerre froide. Nous n'étions pas un pays divisé comme l'Allemagne en deux parties, mais c'est un peu comme si nous l'avions été.
Pourquoi ?
Que il y avait en Italie un mur politique intérieur qui était constitué par la présence du plus grand parti communiste de l'Europe de l'Ouest et qui ne pouvait pas accéder au pouvoir parce que du fait de notre appartenance à l'Alliance Atlantique et à l'Europe de l'Ouest, mais qui était très très fort et très populaire. Et donc il y avait une sorte de démocratie d'alternance bloquée où les mêmes étaient toujours au pouvoir. Il ne pouvait pas véritablement y avoir de rechange politique parce que une partie importante de l'électorat et du système politique était, disons, congelée à l'intérieur du Parti communiste, qui, par contre, accédait au pouvoir au niveau local, dans les administrations locales, les villes, etc.
C'est-à-dire que c'est la démocratie chrétienne qui bénéficiait beaucoup de cela.
Exactement. Et c'était donc la démocratie chrétienne avec ses alliés, dont surtout, à partir d'un certain moment, le Parti socialiste, et puis d'autres petits partis, qui étaient au pouvoir tout le temps. Et ceci a produit effectivement une démocratie en même temps stable et instable. C'est-à-dire, vous savez, en Italie, les gouvernements changent presque chaque année. Mais en même temps, c'était toujours plus ou moins les mêmes hommes et les mêmes forces politiques pendant plus que 50 ans.
Avec une règle du jeu faussée.
avec une règle du jeu faussée et avec évidemment un niveau de corruption qui inévitablement s'est beaucoup développé du fait de ne pas avoir, de ne jamais avoir d'alternance au pouvoir. Et aussi du fait qu'il y avait quand même un défi organisationnel et financier du Parti communiste qui bénéficiait d'aides en provenance de l'Union soviétique. Et donc les autres partis avaient, eux, des aides qui arrivaient d'ailleurs ou se servaient, disons, dans les finances publiques et dans les caisses publiques. Et ça a produit effectivement un système pas très, disons,
pas sain,
plutôt corrompu et très inefficace au niveau de l'administration, qui était toléré par les Italiens et par les élites italiennes aussi, tant qu'il y avait une menace communiste à l'extérieur.
Est-ce que les Italiens le savaient? Est-ce qu'ils étaient conscients de cette règle du jeu faussée? Parce qu'en France, on a connu une situation qui était un peu analogue, sauf que le Parti communiste a été très rarement en position de gouverner. Il a gouverné avec les gaullistes juste après la guerre, et puis avec Mitterrand, mais dans le fond, il n'avait pas l'importance que cela avait en Italie. Est-ce que les Italiens avaient conscience qu'un jour, il faudrait payer la note, quoi, solder les comptes?
Mais écoutez, c'est difficile à dire, Antoine Garapon, mais je pense que il y avait effectivement une acceptation
tacite.
On disait en Italie, il faut voter la démo en se bouchant le nez. C'était un célèbre journaliste italien qui le disait. Comme toujours, en plus dans l'humour et dans les gags, il y avait. C'était un peu comme en Union soviétique justement. Il y avait beaucoup de vérité dans les blagues. Et donc, je pense qu'il y avait une acceptation et une compréhension tacite de ce système-là, qui évidemment est tombé au moment de la chute du mur de Berlin. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison de tolérer l'inefficacité, la corruption du système politique italien.
Et c'est les juges qui ont fait le travail.
Et c'est les juges qui ont fait le travail. Après, justement, il y a eu d'une certaine façon une convergence d'intérêts.
Oui.
Les juges ont incarné, à mon avis, un premier moment populiste aussi, justement.
Ah oui, vous diriez ça aujourd'hui.
Rétrospectivement, c'est encore plus clair.
Ah oui.
Hein, il y a, en plus, on a pu après récupérer des déclarations, même par exemple du chef du parquet de Milan, qui a été en effet un peu le point focal de l'enquête main propre et qui a déclenché tout le mécanisme. À un certain moment, dans une interview, il dit quand les gens nous applaudissent dans la rue, en réalité, ils applaudissent eux-mêmes. Ils s'applaudissent eux-mêmes.
Ah oui, il était conscient de l'ambiguïté.
Donc, il était conscient, ils avaient un niveau de popularité énorme, et c'était évidemment un peu le symbole aussi du petit fonctionnaire, du petit juge qui va s'attaquer aux puissants et qui va démonter toute la machine du pouvoir.
Alors, oui.
Il y avait dès le début une rage populaire et un désir de punition et de dégradation des puissants quand même qui était derrière ces enquêtes qui étaient légitimes dans le fond. Il y avait le phénomène était là, mais ce sentiment là il a quand même émergé très puissamment à ce moment-là la première fois. Et puis, au cours des années successives, il a pris beaucoup d'autres voies.
La comparaison avec la France est intéressante, Giuliano D'Empoli, parce que en France, on a eu un phénomène similaire, comme on a eu à Genève. D'ailleurs, il y avait la rencontre de Genève dans laquelle tous ces procureurs et ces juges se retrouvaient. Et il y avait ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette figure du petit juge, c'est-à-dire d'un juge qui appartient aux classes moyennes, un juge qui ressemble aux classes moyennes, qui ressemble à la France invisible, qui ne fait pas partie de ces élites comme le sont par exemple les énarques chez nous en France, ce qui est toujours vrai d'ailleurs entre parenthèses, hein, toujours vrai aujourd'hui, mais ils n'ont pas joui de la même popularité que celle dont ils ont bénéficié en Italie.
Je pense que c'est tout à fait d'ailleurs l'idole, disons le symbole de toute cette opération, le juge le plus célèbre qui était Antonio Di Pietro, était justement un personnage qui a conquis les Italiens par sa personnalité aussi. C'était tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire un homme très simple, un homme du peuple, un homme qui parlait et qui se comportait comme un homme du peuple, mais qui justement allait démonter et attaquer, s'attaquer aux puissants. Donc cet aspect-là, il a été présent dès le début. Je pense qu'il n'aurait pas pu produire les effets qu'il a produits quand même s'il n'y avait pas eu une convergence avec d'autres facteurs. Il y a eu en ce moment-là une préoccupation très grande, surtout de la part des industriels et d'un certain monde productif de l'Italie du Nord. C'était le moment, rappelez-vous, où il s'agissait de converger vers le parcours du traité de Maastricht et la monnaie unique. Ça commençait à ce moment-là déjà à se définir. Et la peur qu'a eu la partie la plus développée du pays, que la corruption et le retard du système public, de l'administration publique italienne empêche à l'Italie de participer à la phase de l'union monétaire, a joué un rôle. D'ailleurs, la Ligue du Nord a eu sa première poussée et sa première incarnation exactement à ce moment-là. Il y a eu aussi la mutation du Parti communiste qui, en perdant son idéologie, a dû se réinventer et ils ont trouvé comme bouée de sauvetage justement ce concept de l'honnêteté, de la diversité anthropologique. C'était déjà une idée du vieux Enrico Berlinguer, le secrétaire du Parti communiste dans les années 80. Et puis les médias, évidemment, qui sont des médias de plus en plus commerciaux, qui vont de moins en moins être contrôlés par la politique et de plus en plus être contrôlés par le marché, et donc poussés par le scandale, etc.
C'est ça. Et on rentre dans une démocratie d'opinion, laquelle démocratie d'opinion va trouver, alors si on accepte le gouvernement technique de l'Italie en 93, ça débouche sur Berlusconi, qui est à la fois un manager et un homme de médias qui rafle la mise, pourrait-on dire,
voilà, Giuliano d'Empoli. C'est paradoxal parce que, d'une certaine façon, c'est surtout la gauche qui exploite en un premier temps politiquement ce mouvement des juges. Et là, il y a une sorte de court-circuit qui se produit. C'est-à-dire, d'un côté, Berlusconi émerge comme le champion des anciens, des électeurs de la démocratie chrétienne et des partis bourgeois, disons, qui ont gouverné l'Italie, qui ont le sentiment que le Parti communiste va prendre le pouvoir alors qu'il a perdu historiquement à cause des affaires de corruption. Donc que c'est injuste et que la démocratie chrétienne pratiquement n'existe plus, le Parti socialiste n'existe plus, il n'y a plus de frontières par rapport à la montée de la gauche, et Berlusconi se présente là en disant non. Et donc il est, dès le début, contre les juges. Hein, il a une position qui est très... Et il va d'ailleurs avoir des combats épiques.
Jusqu'à succomber à la fin.
Voilà, jusqu'à succomber à la fin. 20 ans de combats épiques avec une partie de la magistrature italienne. Très bien. De l'autre côté, il est quand même aussi le produit de cette exploration populiste dans laquelle l'Italie va se lancer à partir de ce moment-là, c'est-à-dire les Italiens ne veulent plus être gouvernés par des hommes politiques. Ils vont tenter toutes sortes d'autres expériences pour ne plus être aux mains des hommes politiques qui sont corrompus, incapables, etc.
Tous pourris.
Et donc, d'abord les juges qui vont les libérer. Ouais. Et puis Berlusconi va arriver, il va dire non, c'est les entrepreneurs, c'est les producteurs, c'est les gens qui produisent quelque chose, c'est pas des politiciens incapables.
Improductifs.
Oui. C'est des gens... Et à partir de là, il va y avoir une séquence infinie de d'autres propositions politiques.
Mais alors, Giuliano D'Empoli, comment il y a une sorte de préparation d'artillerie, on dirait en termes militaires, des juges pour se débarrasser de l'ancienne classe politique. Et dans ce sens-là, les prolégomènes, ce sont les prolégomènes du populisme, Berlusconi. Mais comment est-ce que le mouvement 5 étoiles, qui pour vous à vous lire le mouvement le plus intéressant, même si on était focalisé sur Salvini, c'est le phénomène le plus intéressant parce qu'il va transformer l'essai en quelque sorte.
Ah, complètement. C'est-à-dire, le mouvement 5 étoiles va justement prendre cette rage de l'électorat italien qui est très forte, qui traverse le panorama politique depuis le début des années 90, donc depuis maintenant très longtemps, plus qu'un quart de siècle, et il va appliquer une méthode très moderne pour intercepter cette rage, c'est-à-dire il va se donner une structure qui ressemble un peu à l'algorithme justement de Google, de Facebook, de YouTube. C'est-à-dire il ne va pas vraiment avoir de contenu,
pas de programme,
pas véritablement de programme. Le premier slogan c'est Vaffanculo, c'est-à-dire dit poliment, allez vous faire voir, justement par rapport aux élites. À part ça, il n'y a pas d'autres vrais contenus. Bon, il y a évidemment, mais il n'y a pas de vrai programme, mais il y a une organisation, et une organisation digitale d'ailleurs très très pointue, qui va intercepter les désirs et les préférences de ses usagers, dans ce cas des électeurs, et va leur renvoyer ce qu'ils ont envie d'entendre. Un peu justement comme l'algorithme de YouTube, en poussant toujours vers l'excitation, vers l'engagement, vers la rage.
Alors, il y a un homme absolument central dans cette histoire-là, que les Français ne connaissent pas d'ailleurs, je crois, parce que ils sont, pour eux, les 5 étoiles, c'est Beppe Grillo, maintenant c'est le Premier ministre Conte, mais ils ne voient pas qu'en fait tout cela a été orchestré par un homme assez génial d'ailleurs et qui va faire tache d'huile, qui va être copié y compris dans le monde anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet homme Gian Roberto Casaleggio?
Oui, c'est une histoire assez passionnante, Antoine Garapon, c'est-à-dire cet homme-là c'est un expert de web marketing qui a sa propre entreprise. Après il perd son entreprise et donc il a lui aussi une certaine rage en soit à partir de ce moment-là. Lui, il va chez Beppe Grillo, qui est à l'époque un comique qui fait des spectacles dans les théâtres. Il lui dit « Tu vas continuer à faire tes spectacles, moi je ferai ton blog. » Et lui, il a déjà compris que l'Internet va transformer la politique, mais il a compris aussi qu'on ne peut pas faire un parti Internet, qu'il y a besoin d'une incarnation, qu'il y a besoin d'une présence physique. Donc, il recrute véritablement Beppe Grillo.
Et c'est pas l'inverse.
Tout le monde connaît comme le leader de 5 étoiles, mais pas du tout. C'est un employé, disons, de Casaleggio, mais qui va avoir quand même l'intelligence de ne se présenter que comme une sorte de fournisseur technique, alors que véritablement c'est lui qui écrit le blog, c'est-à-dire c'est lui qui sélectionne sur la base des réponses des usagers les thèmes porteurs, les campagnes, les slogans, etc. Et le blog de Beppe Grillo va devenir l'embryon du mouvement 5 étoiles. Donc il va graduellement se transformer en un mouvement politique qui marche toujours comme ça et qui est aujourd'hui physiquement de propriété du fils de Gian Roberto Casaleggio, Davide Casaleggio.
Et comment il a appelé sa boîte? Parce que ça aussi, c'est quand même...
Il a appelé la plateforme Rousseau.
Rousseau,
oui, voilà.
Rousseau du nom du philosophe genevois.
Rousseau est un des précurseurs de la démocratie directe. Par rapport à la représentation, disons, leur idée, c'est que la démocratie représentative, c'est fini. Les représentants du peuple, c'est fini parce que le peuple a aujourd'hui les moyens techniques pour s'exprimer directement. Et donc, ils ne veulent pas simplement comme en France ou ailleurs des référendums d'initiative citoyenne. Ils vont plus loin. Ils veulent la démocratie digitale permanente. Donc, le mouvement 5 étoiles, d'ailleurs n'existe pas physiquement, c'est-à-dire il n'y a pas de section, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a rien, il n'y a qu'une plateforme digitale sur laquelle tous les choix sont faits. Le seul problème, c'est que cette plateforme digitale, elle n'est pas, et là c'est l'ambiguïté du mouvement, elle n'est pas transparente,
bien sûr.
Elle n'est pas open source, elle est fondamentalement de propriété de la famille Casaleggio.
C'est plus qu'embarrassant, c'est véritablement le paradoxe de la transparence, Giuliano da Empoli. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles mise tout sur le digital, sur l'ouverture, sur le contact direct avec les citoyens, mais qui repose sur une opacité totale. Exactement. Une opacité totale et même une propriété privée, avec ce que j'ai lu dans votre livre, parfois des contrats passés avec des pénalités terribles pour faire élire un homme politique, en l'occurrence une femme politique, la maire de Rome.
Ah oui, mais c'est des gens, justement, la maire de Rome et les élus du mouvement 5 étoiles passent des contrats avec Casaleggio. Bon, maintenant ça s'est un peu modifié, mais disons il y a une association mouvement 5 étoiles, mais toujours contrôlée plus ou moins par les mêmes. Et il y a non seulement des pénalités, mais il y a aussi, par exemple, des choses orwelliennes comme de s'engager à ne communiquer que à travers les chaînes, le blog et les chaînes Facebook contrôlées par Casaleggio, de partager leurs mots de passe pour que ce soit directement Casaleggio à gérer leur communication, etc. Mais encore une fois, le contraste entre la transparence apparente, parce qu'il y a une participation, une ouverture apparente totale, et l'opacité de fond de la machine, c'est encore une fois la un peu la leçon de Silicon Valley. Non, il n'y a pas de secret mieux gardé que les serveurs et les algorithmes de Google, et qui sont du coup par contre en réalité les porteurs de la transparence pour tous les autres.
Alors ce qui est tragique, quoi, terrible, c'est que finalement Casaleggio ne verra jamais le succès définitif de 5 étoiles. Il meurt, et il meurt sous un drôle de pseudonyme dans une clinique milanaise.
Oui, tout à fait. Il s'enregistre. Là, d'ailleurs, je ne me souviens plus quel était le pseudonyme.
Gianni Isolato.
Voilà, Gianni Isolato, parce qu'il a l'impression, son mouvement, il n'avait pas... Gianroberto Casaleggio était un visionnaire, mais il ne pouvait quand même pas imaginer l'ampleur qu'aurait pris son mouvement. D'ailleurs, au début, il imaginait de mettre cette machine au service de quelqu'un d'autre. Oui. Il a travaillé pour Di Pietro, le magistrat,
quand on retrouve son mouvement politique, c'est
intéressant. Il a essayé de faire des choses pour le Parti démocrate, et puis, bon, il fonde son mouvement. Et à la fin, on a quand même l'impression qu'il est un peu dépassé par l'ampleur qu'a pris tout ça.
Mais il n'était pas intéressé par la politique, c'était un homme du marketing.
C'était un homme du marketing qui disait, moi je ne m'intéresse pas de politique, je m'intéresse d'opinion publique. Donc moi j'analyse et je fournis des instruments, mon rôle et le rôle d'un parti, à son avis, n'était pas du tout celui de fournir des orientations, c'était simplement celui de recevoir les impulsions du public et être le plus efficacement possible les porteurs de ces instances. Après, justement, Casaleggio, c'est bizarre parce qu'il a eu le privilège rare de pouvoir tester sur la réalité des idées qu'il avait en théorie.
Oui, mais c'est plus qu'une démocratie directe. On voit à quel point c'est une démocratie qui se prétend technologique, numérique. On ferait mieux parler de démocratie digitale, d'ailleurs, plutôt que des démocraties directes.
Il le revendique complètement. Et ils disent, les vieux partis, c'est comme Blockbuster et nous, c'est comme Netflix.
C'est ça. Donc, et qui vont servir ce que les gens ont envie d'entendre.
Tout à fait.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Giuliano da Empoli, et les auditeurs auront reconnu l'air de Barberine des Noces de Figaro de Mozart, qui était ici interprété par Laurence Monterol, qui d'ailleurs, les Noces de Figaro, qui montre ce passage d'époque, ce moment extraordinaire de la fin du XVIIIe siècle, dans laquelle tout bascule, un peu l'époque que nous vivons d'ailleurs en ce moment. Et vous écrivez, Giuliano da Empoli, dans votre livre, vous dites « Pendant tout le XXe siècle, l'Italie a été le laboratoire dans lequel ont été menées des expériences politiques vertigineuses, souvent destinées à être reproduites sous des formes diverses dans d'autres parties du monde. » Je retiens cette expression des expériences politiques vertigineuses et on pense bien sûr au fascisme où Mussolini a été un précurseur par rapport à l'Allemagne, à la Hongrie, à beaucoup d'autres pays. Vertigineux, c'est véritablement cela que vous vivez actuellement en Italie et que nous vivons tous d'ailleurs en raison de cette démocratie directe qui est en réalité une démocratie digitale.
Oui, je crois nous sommes effectivement encore une fois à un point de basculement. Et d'ailleurs, moi, je ne crois pas aux transpositions mécaniques par rapport au scénario des années 20 et des années 30, mais il est vrai que pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années, qui se sont formés au cours des années 80, 90, etc., les livres d'histoire, il y avait une partie des livres d'histoire qui était incompréhensible. Il y avait certains basculements qu'on a pu étudier, mais on n'arrivait pas vraiment à les sentir, à comprendre exactement comment ça avait pu se passer. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression, c'est peut-être un des peu d'avantages de vivre à cette époque, on comprend comment ça a pu se passer. C'est-à-dire, il y a quand même des sentiments qui réémergent. Après, ils prennent des formes différentes, l'époque est différente, mais il y a des sensations vraiment qui doivent, je pense que ça a été un peu les sensations et les sentiments qu'ont pu vivre les gens au début du XXe siècle.
Je vous rejoins, Giuliano da Empoli, parce que je pense à quelque chose qui a été fondateur pour ma génération, la génération 68, pour faire court, c'était l'opposition droite-gauche. C'est-à-dire que c'était irréductible. C'est-à-dire, les Français se demandent toujours, d'ailleurs, si c'est pas une distinction structurante de la vie politique nécessaire. N'empêche que vous avez assisté en Italie, et l'on assiste dans beaucoup de pays du monde, à un brouillage profond, en raison même du populisme, quoi, ce qu'on appelle improprement le populisme, ou faute de mieux, en raison de cette disparition des médiations politiques, ce brouillage entre la droite et la gauche.
Tout à fait. D'ailleurs, je pense, Antoine Garapon, que le clivage reste pertinent à beaucoup d'égards, mais il est certainement moins structurant et beaucoup moins central qu'il a été par le passé. Il y a un philosophe que vous connaissez certainement qui s'appelle Peter Sloterdijk qui a fait cette réflexion très intéressante sur la colère, où il dit il y a toujours eu une certaine quantité de rage et de colère dans la société, parce que la société produit des insatisfactions,
parce que
des
injustices. De l'homme le produit aussi.
Le cœur de l'homme,
oui,
exactement, produit de la colère. Mais il y avait, au cours du XXe siècle, ce qu'il appelle des banques de la colère, c'est-à-dire des institutions qui, d'une certaine façon, interceptaient cette colère et la réinvestissaient sur le long terme. Alors, il parle de l'Église, évidemment, qui a cette fonction historiquement, mais il parle aussi des partis de la gauche qui, effectivement, avaient un peu cette fonction. Alors, si vous n'étiez pas satisfait du monde tel qu'il était, vous aviez tendance à voter et à vous adresser à la gauche. Et à partir d'un certain moment, il est vrai que la gauche, en se normalisant, après la chute du mur, en se normalisant, avec une évolution d'ailleurs qui a eu des aspects très positifs aussi, mais la gauche a perdu cette capacité d'intercepter la colère, Et après un flottement, il y a ces mouvements populistes qui se sont insérés un peu dans ce créneau-là.
Est-ce que c'est pas aussi un démenti du libéralisme? Parce que le rêve du libéralisme, qu'on retrouve dès avant la Révolution française, c'était un peu l'idée d'un Voltaire chez nous. C'était quand les gens vont penser à s'enrichir, lorsqu'ils vont penser uniquement à maximiser leurs profits, à leur bien-être personnel, eh bien ça va éteindre les passions tristes qui peuvent germer en eux. Eh bien non, ça n'a pas marché comme ça.
Je crois qu'une des intuitions fondatrices des nouveaux leaders et mouvements populistes, c'est quand même que la vie et la politique ne se réduit pas à un calcul, d'intérêt. C'est-à-dire, c'est vrai que ces mouvements naissent aussi en partie d'insatisfaction matérielle et d'une rage face à la montée des inégalités, etc. Mais il y a quand même un côté, et on l'a vu par exemple dans la campagne du Brexit, où il y avait les explications de David Cameron et du gouvernement anglais qui disaient « mais on va perdre des emplois, ça va faire du mal à l'économie, etc. » Et les partisans du Brexit, bon, ils s'opposaient, ils disaient que non, ça se passerait mieux, mais fondamentalement, ce qu'ils disaient, c'était « il n'y a pas que ça. Il y a le contrôle sur notre vie, on est en train de perdre le contrôle sur notre vie, même si on doit s'appauvrir d'une certaine façon, il faut qu'on récupère. » Et donc, il y a eu de leur part, un peu dans tous les contextes, et on voit ça dans Trump aussi, on le voit dans... Il y a une revendication qui va au-delà de l'aspect de l'intérêt bien compris, disons.
Oui, c'est ça, mais alors, « take back control », c'était ce que disait le Brexit, qui était fomenté par Cummings, qui était un des maîtres, une sorte de Casaleggio anglais, mais qui se fondait sur un instinct primitif de l'être humain, quelque chose de plus fondamental. Dans le fond, c'est ce qui ressort, et ce qui ressort à travers ce sentiment de rage, c'est, vous le dites d'ailleurs très bien à la suite des psychologues, c'est un double sentiment de solitude et d'impuissance. Et on pourrait dire que l'Internet nous procure ce sentiment d'une satisfaction du désir toujours imparfaite, parce qu'on ne satisfera jamais un désir, mais aussi ce sentiment de solitude et d'impuissance.
Tout à fait. Il y a, après, sur cette rage qui a toujours existé, que la société et le cœur humain, comme vous le dites, Antoine Garapon, a toujours produit, et il y a aujourd'hui une machine surpuissante qui va se placer dessus, qui est justement l'Internet, les réseaux sociaux, etc., qui, d'un côté, produit un degré de frustration extraordinaire. Parce que vous êtes dans des réseaux où vous êtes censé toujours vous représenter au mieux de vous-même, où d'autres autour de vous le font, et où vous êtes sommé de toujours vous exprimer, et disons, vous n'êtes pas toujours à la... Il y a une frustration qui naît là, quand même, parce que vous avez l'impression que... Et en plus, par rapport à la politique, évidemment, c'est complètement dévastateur, parce que on est habitué à avoir des réponses instantanées, on clique sur un bouton, et la politique, c'est un peu le contraire de ça.
Ben
et la politique représentative encore plus, c'est la procédure, c'est le rituel,
c'est
la recherche du consensus, c'est un processus lent, peu narcissique, il y a peu de récompenses narcissiques en réalité dans la recherche du consensus et dans la militaire classique.
Alors, vous avez parlé de militance, justement, Giuliano da Empoli. Est-ce qu'il n'y a pas un effondrement concomitant dans les structurants fondamentaux qui étaient les structurants du temps, de l'espace et aussi, d'ailleurs, du langage? Dans le fond, la politique militante qui a contribué aux horreurs du XXe siècle, c'était une politique qui faisait sortir de soi, qui faisait s'affilier par le langage à un mouvement long de l'histoire. Et donc c'était une politique sur un support, on l'a suffisamment dénoncé, d'une philosophie de l'histoire très inspirée de la philosophie d'ailleurs chrétienne, hegelienne, d'une fin de l'histoire. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps a disparu. Une revendication, on le voit partout, y compris dans notre pays, en France, une revendication qui n'est pas tout de suite satisfaite et a été trompée, cachée, gaspillée par les politiques. On le voit en matière d'écologie, cette jeune Suédoise, on n'a rien fait pour la planète parce que tout doit arriver tout de suite.
Écoutez, ce petit instrument que nous avons dans la poche...
La cage de poche.
voilà, la cage de poche. Et là, vraiment, on y fait... Il y a deux choses qu'on fait avec. D'un côté, justement, quelques questions qu'on ait, et où, de plus en plus, quelques services dont on peut avoir besoin, on clique sur un bouton et on obtient une réponse immédiate. Ce qui est impossible en politique, mais l'impatience est la règle, disons, de la vie du consommateur et du citoyen en dehors de la politique, dans tous les terrains. Bon, très bien, ça vaut pour la télévision, ça vaut pour tous. Un temps, vous attendiez les séries, etc.
Le journal de 20 heures, oui.
Beaucoup de gens vont écouter cette émission en podcast et ils vont pouvoir les écouter quand ils veulent, où ils veulent. Bon, alors ça, ce côté d'impatience... génère une insatisfaction fondamentale par rapport au rituel de la politique. Et de l'autre côté, justement, l'autre chose que vous faites, c'est vous vous prenez en photo. Il faut que vous y soyez. Il faut que ce soit personnalisé. Il faut que ce soit qu'on s'adresse à vous personnellement. Il faut. Je rencontre quelqu'un. Je vais dans un événement public. Je ne le photographe plus. Je me prends moi en photo dans l'événement. Et là encore, cette récompense narcissique, la politique représentative n'est pas faite pour la satisfaire, parce qu'il faut déléguer à quelqu'un d'autre. Et même le moment du vote, au fond, c'est un moment où, si vous prenez un selfie de vous-même pendant que vous êtes en train de voter, le vote est annulé, parce qu'en principe, il faudrait qu'il soit secret. Et ça, c'est un symbole, mais c'est tout le contraste des vieilles institutions politiques par rapport à notre culture.
Giuliano D'Empoli, ça veut dire que effectivement, il y a à partir du moment où on peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, c'est très important de la journée, c'est-à-dire qu'on peut prendre un billet de train en pleine nuit sur Internet. Ça veut dire qu'il y a il y a plus cette synchronisation des échanges qu'opérait la politique, qu'opérait la réunion physique. Vous avez le mot de narcissisme revient souvent sur votre bouche. On pourrait le formuler de manière positive ou du moins par son inverse, c'est-à-dire la perte du sacrifice. Est-ce que la rage, l'expression de la rage, l'expression de la colère qui va se transformer en violence, n'est pas, alors une violence qui n'est plus canalisée, est-ce qu'elle ne correspond pas aussi à un effondrement du sacrifice ?
Oui, tout à fait. Je pense que il n'y a plus la disponibilité nulle part, disons, à surtout encore plus que le sacrifice à ce que les Américains, vous devez avoir un terme en français aussi, appellent delayed gratification, non, c'est-à-dire je vais faire un sacrifice aujourd'hui pour construire quelque chose qui va être récompensé plus loin. Mais ce qui est très important, c'est quand même que les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire ces nouveaux entrepreneurs politiques
qui gouvernent nos villes,
qui commencent à nous gouverner, ils ont commencé à donner une réponse à leur manière à ça. C'est-à-dire, la politique de ces nouveaux mouvements, et le mouvement 5 étoiles en est un peu le paradigme, il répond à cette crise-là. C'est-à-dire, il va... puiser dans les poches de rage, il y a une très belle série de télévision qui est passée malheureusement en France sur Canal+, sur le Brexit, où on voit justement Dominic Cummings, le personnage, le stratège la campagne du Brexit, qui dit c'est comme si on était sur une plateforme pétrolière, il y a des poches de rage un peu partout, nous on va aller, on a des systèmes aujourd'hui pour aller puiser dans chaque poche et l'intercepter. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils permettent ça.
Oui, mais Giuliano D'Empoli, c'est extraordinairement inquiétant ce que vous dites, parce que ça veut dire que ces poches de rage, on ouvre la boîte de Pandore, qu'on ne saura pas refermer. Et vous dites dans votre... Vous rapportez cette enquête du New York Times qui est assez effrayante, ou qui concerne l'Allemagne et les violences commises contre les réfugiés en Allemagne. Et cette étude montre que en passant à la loupe des milliers de cas d'agression enregistrés dans ces deux dernières années, eh bien, il y a une corrélation entre le nombre d'incidents et le taux de pénétration de Facebook. Une corrélation signifiante.
C'est assez logique, Antoine Garapon, à mon avis. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous passe plusieurs heures de sa journée sur ces instruments, Et ces instruments sont construits de façon, ils ne sont pas méchants, hein, il n'y a pas, et justement, il n'y a pas de valeur.
C'est une sorte de caresse maternelle.
Justement, et le seul objectif de ces réseaux sociaux ou de plateformes comme YouTube, c'est de nous garder le plus longtemps possible en ligne.
C'est de capter notre attention.
C'est pas méchant. Mais ça a été étudié de façon très, 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 très pointue. Il y a des investissements énormes derrière, d'ailleurs. Et donc, il y a ce qui est prouvé et ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont nous garder avec un contenu très émotionnel, qui génère des émotions fortes. Et les émotions négatives, elles engagent plus, elles portent plus à de l'engagement en ligne que les émotions positives.
Giuliano D'Empoli, on disait, c'est le sens de cette émission, que l'Italie est décidément un laboratoire pour la politique et ses expériences vertigineuses. On a vu le lien avec l'après 89 et ce qui nous arrive aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, on n'amorce pas un retour en Italie avec l'alliance du Parti démocratique et de 5 étoiles. En d'autres termes, je ne voudrais pas terminer cette émission sans que vous nous disiez comment vous voyez l'avenir. Est-ce que vous ne pourriez pas apporter un peu d'espoir sur le devenir de nos institutions politiques ?
Oui, moi, je ne suis pas pessimiste. Alors, d'abord, dans le cas italien, les institutions véritables qui ont été conçues quand même dans l'après-guerre pour bloquer l'avancée d'un nouveau fascisme, etc., bon, elles marchent bien, elles assurent leurs fonctions, et en Italie comme en Angleterre, elles arrivent un peu quand même à ralentir ces processus.
La messe n'est pas dite.
Et il y a, c'est vrai qu'il y a des éléments d'inversion de tendance. Je pense qu'aujourd'hui, on discute beaucoup de tous ces sujets, par exemple notamment la régulation des plateformes Internet, toutes les questions liées aux fake news, etc. C'est toutes des questions qui n'existaient pas dans le débat jusqu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, elles sont au centre du débat. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de concevoir des antidotes, soit d'un point de vue de la régulation, soit, ce qui est plus important, d'un point de vue politique, c'est-à-dire après, dans les années 30, on a des exemples positifs aussi. Oui. On a Roosevelt qui va intercepter les mêmes technologies et les mêmes poussées que celles qui ont porté au nationalisme et va porter l'Amérique dans une direction
différente. Mais Giuliano D'Empoli, dernière remarque, vous parliez de Roosevelt. Malheureusement, il y a Roosevelt et puis il y a la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a la crise de 29, Roosevelt et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'on réussira à faire rentrer le diable dans sa boîte et notamment à apaiser cette colère, cette rage, même si on se libère des algorithmes?
C'est toute la question. Je crois que la réponse là, elle va varier de pays à pays. Moi, je ne suis pas du tout, au niveau par exemple européen, global, je ne suis pas du tout pessimiste. On a vu les résultats des dernières élections européennes. On voit une rage qui, dans certains endroits, retombe quand même. Et on voit les exemples aussi très négatifs de l'impasse où peut porter ces nouveaux mouvements. On voit le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Alors, je pense que ça va dépendre de contextes nationaux aussi, quand même.
Eh bien, merci beaucoup, Giuliano D'Empoli.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Matière à penser, Giuliano D'Empoli, Bernard Laniel, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Bévigne, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour continuer cette conversation en compagnie d'Élodie Georgievic. À demain.